Bonsoir à toutes et à tous. On va aujourd'hui avoir donc la quatrième séance de ce cycle sur mouvements sociaux et politiques. Il me revient finalement de terminer ce cycle qu'on avait commencé avec l'intervention d'Andrea Galvao sur le Brésil, après Montserrat Emperador sur les mouvements contre les expulsions en Espagne. Là, il y a maintenant 15 jours l'intervention de David Garibay sur le Venezuela et la Bolivie. Et puis donc, quatrième et dernière séance, on s'est dit il faut quand même parler de la situation française, revenir un petit peu sur le contexte des luttes sociales en France aujourd'hui. Alors, ça nous ramène sur un cas peut-être plus connu pour le plus grand nombre d'entre vous, sur l'histoire immédiate aussi. Hein, c'est toujours difficile d'essayer de décrypter le temps présent, le temps immédiat. En même temps, il me semble que c'est bien le cadre de l'université populaire qui permet de faire cela. Hein, l'idée ici, c'est d'amener quelques éléments de réflexion pour en discuter ensemble, pour esquisser des pistes de réflexion. Alors il s'agit de réfléchir de façon un peu métaphorique aux liaisons dangereuses entre mouvements sociaux et politiques et partis politiques. Et si je voulais commencer de façon un petit peu, façon peut-être trop simpliste, trop réductrice, mais pour avoir une question qui parle un petit peu, on pourrait se demander que se passe-t-il pour les luttes sociales quand le gouvernement issu des urnes est celui de partis politiques inscrits à la gauche de l'échiquier politique, qu'il s'agisse d'un gouvernement socialiste, de sociaux-démocrates. Donc c'est la question qui a été un peu le fil pour un certain nombre d'interventions que je vais reprendre aujourd'hui par rapport à l'actualité politique et sociale en France. Alors, en ce qui concerne cette actualité, il me semble que la configuration actuelle en France présente des caractéristiques qui sont relativement classiques dans ce rapport entre mouvements sociaux et politiques, et des caractéristiques qui sont peut-être plus originales. Encore, il faudra le discuter pour voir à quel point elles sont originales. Des caractéristiques relativement classiques. C'est pas nouveau qu'il y ait une faiblesse des mobilisations sociales, notamment celles menées par les organisations syndicales, des luttes sociales dans le monde du travail, lorsque la gauche, entre guillemets, est au gouvernement. Ce n'est pas une donnée nouvelle, c'est une donnée qu'on peut retrouver au travers de l'histoire des dernières décennies. Je vais essayer de le montrer dans un instant. Caractéristique plus originale, le fait que depuis l'élection de François Hollande en mai 2012, la rue semble occupée plutôt, pour le dire vite, par la droite, voire par la droite conservatrice, l'extrême droite, dans ses différentes composantes religieuses, mais aussi économiques, avec le parti du patronat, et puis politique. Alors est-ce que c'est si différent de ce qu'on a connu à d'autres époques ? Un des appuis de la recherche en sociologie, en sciences politiques, en histoire, c'est de pouvoir justement essayer de mettre un petit peu en perspective l'actualité, pour essayer de voir justement à quel point il y a des continuités, à quel point il y a des changements, des ruptures. Alors, justement par rapport à ça, que peut nous permettre de voir une mise en perspective ? Sur le premier point, je disais, c'est classique finalement qu'il y ait une faiblesse des mouvements sociaux quand la gauche est au pouvoir. Effectivement, si vous prenez même un peu plus des 20 dernières années, quasiment les 30 dernières années, l'ensemble des grands mouvements interprofessionnels, quand je dis des grands mouvements interprofessionnels, c'est des mouvements qui réunissent différents secteurs d'activité. L'ensemble des grands mouvements interprofessionnels ont toujours eu lieu sous des gouvernements de droite, quand la droite était au pouvoir. Je pourrais commencer par le mouvement en 1986, mouvement étudiant, et puis un mouvement ensuite qui démarre dans différents secteurs professionnels, notamment chez les cheminots. C'était la première cohabitation, gouvernement de Jacques Chirac. 1995, grand mouvement social qui a réuni là aussi différents secteurs professionnels avec toute une série de manifestations et les plus grosses manifestations en termes de participation numérique qu'on avait vu depuis 68, c'était le gouvernement Juppé. Le mouvement était contre une réforme, contre le plan Juppé en fait, même s'il y avait aussi des éléments par rapport à un contrat de plan État-SNCF. 2003, un autre grand mouvement social, un petit peu moins fort que 95, qui était contre une première réforme des retraites, c'était le gouvernement Raffarin. 2006, le mouvement contre le contrat première embauche, qui a impliqué à la fois des secteurs de la jeunesse, notamment de la jeunesse scolarisée, et puis là aussi qui a rassemblé dans la manifestation des millions de personnes dans la rue, c'était le gouvernement de Dominique de Villepin. Et puis 2010, le dernier grand mouvement interprofessionnel qui s'est tenu en France, qui s'est déroulé en France, contre la réforme des retraites, c'était le gouvernement Fillon. Plus significatif encore, si je remonte un petit peu plus loin, et que j'inverse, je regarde quand la gauche est au pouvoir. Quand les partis de gauche, ou les partis défendus la gauche du gouvernement, se retrouvent, gagnent les élections et se retrouvent au pouvoir. Eh bien, on sait, il y a un certain nombre de travaux, et notamment il y a les travaux de René Mouriot, qui est un des spécialistes du mouvement syndical, qui s'était amusé à compter le nombre de manifestations interprofessionnelles lors du premier septennat de François Mitterrand, au début du septennat, après donc, la victoire, le retour de la première victoire de la gauche sous la Ve République, entre 81 et 84, le début du premier septennat, il n'y a eu aucune journée nationale interprofessionnelle entre 81 et 84. Il y a eu des mouvements sectoriels, je vais y revenir, il y a des luttes dans certains secteurs, mais les confédérations syndicales n'ont pas appelé, pour ne pas gêner le gouvernement, je vais y revenir, à une manifestation interprofessionnelle pendant cette période, laissant finalement la droite occuper la rue à l'occasion du mouvement pour la défense de l'enseignement privé, en 84. Alors, est-ce à dire qu'une mobilisation syndicale d'ampleur est impossible sous un gouvernement de droite? On sait bien combien dans la tête des salariés, des gouvernements de gauche, on sait bien que souvent dans la tête des salariés, dans la tête des militants, peut peser la crainte de fragiliser le gouvernement, même s'il ne correspond pas tout à fait aux attentes de ces militants, ou pas du tout aux attentes de ces militants, mais aussi la peur de faire le jeu de la droite, la peur de favoriser un retour au gouvernement de la droite, voire de l'extrême droite. Pourtant, il faut relativiser, s'il n'y a pas eu de grands mouvements interprofessionnels sous un gouvernement de gauche, des mobilisations sectorielles ont bel et bien eu lieu. Alors, il y a eu des grosses mobilisations pour la défense de la sidérurgie au début du premier septennat Mitterrand, en 82-83. C'est des luttes qui ont été extrêmement importantes. Et si je viens un peu plus vers la période actuelle, sous le gouvernement de la gauche plurielle, le gouvernement Jospin, entre 97 et 2002, vous aviez eu de gros mouvements dans le secteur des finances et dans le secteur de l'éducation nationale, notamment contre le ministre Claude Allègre, durant cette période. Et ces luttes ont d'ailleurs pu s'avérer victorieuses. Donc, voilà. À la fois, il y a une difficulté à mettre en œuvre, à développer un grand mouvement intersectoriel, et en même temps, il existe quand même, il a existé, un certain nombre de luttes sectorielles. Alors, je disais, ça, c'est un peu le côté plus classique, le côté plus novateur, plus original. Est-ce que c'est l'occupation de la rue par un certain nombre de composantes plutôt situées à la droite de l'échiquier politique. La mise en mouvement de secteurs de la droite et l'usage par ceux-ci d'un répertoire d'actions protestataires qui ne leur est pas habituel ou qui n'est pas habituel pour certains de ces groupes. Pas pour tous, pour un certain nombre de ces groupes-ci. C'est un répertoire d'actions qui fait partie de leur modalité d'action auquel ils ont recours, mais pour d'autres non. Là aussi, c'est peut-être à relativiser. Là aussi, je vais un peu dérouler la période depuis début des années 80. Justement, cette première séquence, la première septennat Mitterrand, entre 80 et 84, on avait assisté à une certaine radicalisation. Je vais y venir tout à l'heure, mais dans les différentes composantes syndicales, toutes ne se situent pas à la gauche de l'échiquier politique. Vous avez par exemple la Confédération Générale de l'Encadrement, Confédération Générale des Cadres, qui s'était radicalisée pendant cette période, qui avait affirmé assez fortement son ancrage à droite, en fait. Et puis surtout, vous avez le mouvement de défense de l'école privée contre la loi Savary, qui avait impliqué un certain nombre de secteurs de l'Église catholique, des associations de parents d'élèves, et puis des composantes de la droite politique, en 84. Si je prends la période du gouvernement Jospin, 97-2002. C'est aussi une période, Sarah, je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'en rappelleront, où il y avait eu une très forte radicalisation du patronat. C'est même le moment où le patronat qui s'appelait alors, qui était regroupé dans une organisation qui s'appelait le CNPF, s'est transformé en MEDEF. Prenant pour point de contestation l'annonce de la réforme des 35 heures par le gouvernement Jospin. Et le MEDEF était apparu même à ce moment-là vraiment comme le premier opposant politique, empiétant quasiment sur le terrain de l'UMP en fait. La période du gouvernement Jospin, c'est aussi une période où il y a eu des manifestations contre le PACS, notamment en février 1999, avec une manifestation qui avait réuni autour de 100 000 personnes à Paris. Donc, là aussi, on voit que c'est pas nouveau ce qu'on connaît là depuis 2012. Si ce n'est que peut-être que l'ampleur des mouvements que l'on connaît depuis 2012 est relativement nouvelle, avec effectivement deux mouvements sociaux importants, même s'ils sont différents dans leur composition comme dans leurs revendications. Alors, je vais prendre un petit temps pour évoquer ces deux mouvements sociaux, toujours un peu en introduction, pour revenir un petit peu sur les caractéristiques des deux mouvements qu'on a connus depuis 2012, le mouvement d'opposition au mariage homosexuel en France et le mouvement très récent des Bonnets Rouges en Bretagne. Juste prendre quelques minutes pour les décrire, pour les poser un petit peu, avant de venir à la question qui va m'intéresser dans cette conférence, qui est plutôt celle d'essayer de comprendre la faiblesse du mouvement syndical, la faiblesse relative des luttes sociales dans le monde du travail, relative parce qu'il y a toute une série de luttes qui existent, puisque c'est mon thème de recherche, et en allant un petit peu, en essayant de caractériser ces mouvements plutôt donc qui viennent de la droite du secteur, la droite du champ politique, ça m'a paru intéressant, mais je vais simplement me contenter là de décrire un petit peu ces mouvements pour qu'on les ait en tête pour pouvoir réfléchir en fait. Alors, si on essaie de rassembler un certain nombre d'informations sur ces deux mouvements, le mouvement d'opposition au mariage homosexuel et le mouvement des Bonnets Rouges, on a deux mouvements très, très différents en fait. Donc d'un côté, on a ce mouvement d'opposition contre l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes de même sexe et contre l'adoption par ces mêmes couples. Et en fait, entre le 17 novembre 2012 et le 26 mai 2013, il y a eu cinq grandes manifestations qui ont été organisées par différents collectifs, la Manif pour tous, le collectif qui est représenté par cette militante catholique qui a été très très médiatisée, Frigide Barjot, par un groupement comme Civitas, qui vient de la droite, mouvement catholique traditionnaliste. C'était les deux premières organisations, les deux grosses organisations qui étaient à l'origine des premières manifestations en novembre 2012. Donc on a eu ces manifestations en novembre 2012, puis en janvier, en mars 2013, en avril 2013, et puis encore le 26 mai 2013, qui ont réuni, alors il y a eu une bataille des chiffres entre les organisateurs et les médias, entre 300 000 et 1,4 million de personnes. C'est une protestation qui commence bien avant la discussion de la loi au Parlement, et qui essaye de se prolonger après la promulgation de celle-ci. La loi ayant été adoptée le 17 mai 2013, en fait. Donc, je reviendrai là-dessus sur ce calendrier, sur cette façon à la fois de coller au calendrier parlementaire, en même temps d'essayer de le dépasser, parce que c'est une problématique que les mouvements syndicaux retrouvent assez régulièrement, en fait, d'être dépendants de l'agenda politique. Alors, ce premier mouvement, il est composite, même s'il se situe clairement dans l'espace de la droite française. On y retrouve différents groupes de la droite conservatrice et catholique, différents groupes d'extrême droite aussi. On y retrouve donc l'Institut Civitas, qui est lié à l'action, qui va drainer autour de lui des groupements comme l'Action française, le Mouvement national républicain, vous savez, ce parti qui avait été créé par Maigret lorsqu'il est sorti du Front national. On y retrouve le Front National, le Parti de la France de Karl Lang, le Renouveau Français, le GUD, les Jeunesses Nationalistes. Là, on voit très bien l'inscription politique de ce mouvement. Le collectif Manif pour tous était au départ un peu plus difficile à classer. Il annonçait regrouper 37 associations. En fait, il y a eu des enquêtes menées par des journalistes d'investigation au sein de Mediapart au sein du Monde, qui ont montré que c'est que 15 de ces 37 associations étaient en fait des coquilles vides, hein, destinées un peu à faire masse, hein, à faire croire qu'on avait une diversité de composantes, et qu'en fait, c'était aussi destiné à masquer la prédominance des organisations proches de l'Église catholique française. En fait. Et le collectif Manif pour tous rassemblait des associations, mais aussi donc des personnalités, des représentants aussi, des représentants religieux. En fait. Et puis est apparue une troisième composante, parce qu'il y a eu scission au sein de la Manif pour tous, une troisième composante au printemps 2013, le printemps français, qui, là encore, entretient des liens extrêmement forts avec différents groupes d'extrême droite, en fait. Ce mouvement, donc, ce caractère composite, mais une inscription très claire du côté de la droite extrême, voire l'extrême droite, hein. Et puis, peut-être une des originalités de ce mouvement était son répertoire d'action. Donc, les différentes modalités d'action privilégiées dans le déroulement de l'action du mouvement protestataire. Occupation de la rue, les manifestations. Hein. Donc j'avais mis quelques... C'est là. Hein, c'est des images que vous avez vues. C'était juste pour se rappeler un petit peu les symboliques qui ont été utilisées. Là, vous voyez avec l'écharpe tricolore, hein, pour bien montrer que le mouvement a des porte-paroles légitimes, élus de la nation. Des manifestations avec beaucoup de couleurs, hein, ces drapeaux, le drapeau emblématique là du mouvement, la Manif pour tous, et puis les drapeaux français, hein, qui sont présents dans les manifestations, fait d'occuper la rue aussi en famille, hein, qui a tout de suite interpellé sur le fait que ces différents collectifs, associations étaient en capacité de rassembler plus largement que leur rang habituel, en fait, hein. Donc occupation de la rue, une autre action mise en œuvre par ses opposants au mariage homosexuel, ça va être la demande d'un référendum. On va s'adresser, y compris au président de la République, pour exiger un référendum. Il faut consulter la nation. Ils vont essayer de faire relayer ça par un certain nombre d'élus UMP, en fait. Hein, disant, c'est un sujet trop important, disait-il, pour qu'on ne consulte pas la nation, même si sur le plan constitutionnel, ça rencontrait un certain nombre d'entraves. Mais alors, c'est aussi une thématique, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on peut retrouver parfois du côté du mouvement syndical, hein, cette idée de « il faut un référendum » en fait. Hein. En termes d'instruments, hein, d'outils pour essayer de s'adresser au plus grand nombre en fait. Autre type d'action, le dépôt d'une pétition au Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, c'est la troisième chambre de la République qui rassemble les intérêts socio-économiques et aujourd'hui aussi les associations du monde environnemental. Ils ont réussi à rassembler plus de 700 000 signatures pour déposer cette pétition, mais cette chambre reste totalement consultative. Hein, donc, Et puis, il y a eu aussi le recours à des actions plus radicales, hein, ce qu'on appelle, parfois on caractérise ça d'action coup de poing, notamment après le vote de la loi au Sénat. Il y a eu une accélération du calendrier parlementaire. À un moment donné, le gouvernement, sans doute espérant mettre fin à ce mouvement, a donc donné la consigne d'accélérer la procédure parlementaire. Et il y a eu un vote à main levée au Sénat. Et ça a été immédiatement décrié comme des atteintes à la démocratie, hein, par les porte-paroles du mouvement. Et donc à partir de là, on assiste à des opérations de dénonciation de personnalités. Hein, des opérations ciblées de harcèlement au domicile. Alors, Montserrat Emperador nous avait raconté ça, nous avait parlé de ça dans le mouvement en Catalogne, hein, où on va au domicile d'élus pour, quelque part, leur faire honte par rapport à ce qu'ils ont... en fait, ils aient voté la loi. Des manifestations autour du Sénat, l'Assemblée nationale, on occupe, hein, les lieux du pouvoir, on veut être présent sur les lieux du pouvoir, qui sont d'ailleurs terminés par des affrontements avec les forces de l'ordre. Et puis aussi toute une série d'interpellations du chef de l'État lors de ses divers déplacements, hein, jusqu'à dernièrement la cérémonie du 11 novembre. Et puis des perturbations de manifestations sportives. Donc à cela s'ajoute aussi l'usage d'un registre de discours dramatisant la situation, hein, notamment lorsque le calendrier parlementaire s'est accéléré, hein, très rapidement, Frigide Barjot qui dit « Hollande veut du sang, il en aura », Christine Boutin qui parle de guerre civile, hein, et surtout, en lien avec cette radicalisation du discours, un développement de violences homophobes et racistes, que différentes associations de lutte contre l'homophobie, notamment, ont pu constater, hein, avec une montée, une croissance des actes homophobes, des actes racistes. Par exemple, une association comme SOS Homophobie a pu déclarer avoir reçu en moyenne trois fois plus de témoignages d'actes homophobes que ce qu'elle reçoit habituellement durant cette période. On sait qu'il y a eu dans différentes villes un certain nombre d'actions contre des cafés, des bars, des librairies, des manifestations culturelles. Donc c'est tout ce contexte-là autour de ce mouvement. Le deuxième mouvement qui peut faire dire que la droite occupe la rue est plus complexe, peut-être plus difficile à qualifier, c'est bien sûr le mouvement dit des bonnets rouges, qui s'est déroulé cet automne, et qui est moins aisé de placer sur un axe gauche-droite. D'autant plus qu'interfère un autre clivage, qui est le clivage centre-périphérie. La revendication autonomiste, alors je ne vais pas la qualifier ici ni de régionaliste ni de nationaliste, parce que c'est un enjeu de la qualifier comme ça, on va dire simplement autonomiste, qui vient aussi brouiller ce clivage gauche-droite. C'est un mouvement, vous le savez, qui se constitue en réaction à la menace de plusieurs milliers de suppressions d'emplois, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, et puis qui se constitue aussi en réaction à l'écotaxe, c'est-à-dire cet impôt sur les transports locaux qui avait été décidé sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui avait alors fait l'objet d'un consensus entre l'UMP, le PS et Europe Écologie Les Verts. En fait. Et là, les manifestations ont commencé début novembre, 2 novembre, et 2 novembre en Bretagne, il y a eu 2 manifestations, et c'est assez emblématique. Une manifestation à Quimper, celle dite des bonnets rouges, qui a tout de suite été perçue comme un mouvement assez hétérogène, rassemblant à la fois des employeurs, des petits patrons, mais aussi des dirigeants de ces entreprises menacées de fermeture, des patrons pêcheurs, des salariés d'entreprises, donc étant en train de vivre un processus de fermeture, étant concernés par ce qu'on appelle un plan social, un plan de licenciement collectif, des paysans. Et on trouvait des organisations dans cette manifestation, on trouvait aussi bien la CGPME, qui est une organisation patronale, réunissant les petites et moyennes entreprises, les patrons de PME, que la CGT de la marine, pour les patrons pêcheurs, que l'UD Force Ouvrière, que la FNSEA c'est le gros syndicat agricole, que l'Union Démocratique Bretonne et le Bloc Identitaire. Et en même temps avait lieu à Carré, une manifestation beaucoup plus petite, qui là pouvait s'inscrire assez visiblement à partir des organisations qu'il a convoquées à gauche, réunissant les syndicats, des partis comme le parti de gauche, les différents partis du front de gauche, pour la défense de l'emploi, la rupture avec le productivisme pollueur, je cite, de l'industrie agroalimentaire. Alors ce mouvement il a un peu dérouté, il a donné lieu à des lectures rapides dans la presse. Certains parlaient de populisme de droite, différents populismes de droite, quelque part en voyant aussi là à de lointains échos historiques, au mouvement poujadiste, les petits contre les gros, les petits commerçants, les petits agriculteurs, les petits entrepreneurs contre les gros, d'autres renvoyant à l'idée des mouvements anti-fiscalistes, cette tradition de rejet de l'impôt. Et d'ailleurs, le mouvement lui-même a pris cette appellation des bonnets rouges. Alors, vous voyez là cet usage, donc un signe distinctif au travers du bonnet rouge, et puis l'usage bien sûr des drapeaux bretons. Le mouvement a été construit en référence à cette révolte sous Louis XIV, qui était une révolte contre une taxation supplémentaire qui devait passer notamment par le papier et par l'étain, je crois. Et donc, il y a une réinvention. On va chercher un référent historique pour donner un sens au mouvement et l'inscrire dans donc, la tradition de mouvement antifiscaliste, en fait. En même temps, c'est difficile de ranger trop vite ce mouvement dans une catégorie, de le classer trop vite dans un tiroir, si vous voulez, ou dans une catégorie, parce que c'est pas simplement les petits contre les gros. Quand vous avez un syndicat comme la FNSEA, c'est un syndicat de gros propriétaires, en fait. C'est pas un syndicat de petits propriétaires agricoles. Et effectivement, c'est un mouvement qui donne à voir une alliance conjoncturelle dans la rue entre des salariés licenciés de l'agroalimentaire, des entreprises, notamment l'entreprise Doux, qui est assez connue, il y a d'autres entreprises dans ce cas en Bretagne, des petits patrons des transports routiers, du transport routier, des syndicalistes agricoles. Donc on a une alliance là qu'on pourrait qualifier d'interclassiste, avec l'usage de référents bretons et la reprise de slogans qui ont été utilisés par d'autres mouvements en Bretagne, mais aussi ailleurs, comme « Vivre et travailler au pays », qui était très présent dans les années 70, par exemple. Donc on a un mouvement politique ambivalent, mais qui, j'y reviendrai tout à l'heure, fait l'objet d'une tentative de récupération par la droite et par l'extrême droite. Même si la dimension sociale de ce mouvement, avec la présence de salariés en lutte, pose problème et rend compliquée l'instrumentalisation, en fait. Et alors, ce dernier mouvement, il a beaucoup contribué aussi à une interpellation des syndicats par les journalistes. Finalement, est-ce qu'un mouvement comme celui des Bonnets Rouges ne montre pas le fait que les syndicats sont débordés ? Débordés par la base, débordés par des travailleurs qui luttent pour le maintien de leur emploi et qui, du coup, vont se retrouver dans des manifestations complètement hétérogènes parce que, justement, ils ne trouveraient plus à s'appuyer suffisamment sur le vecteur syndical. Alors, je vais me servir de ça pour justement faire la transition. Je voulais présenter ça puisque c'est l'actualité la plus forte en termes de mobilisation sociale pour essayer de réfléchir ensemble parce que finalement, est-ce que la rue est occupée par la droite. Ça pose la question, à l'inverse, de comment expliquer les faiblesses actuelles du mouvement syndical en France. Même si quand je dis faiblesse actuelle du mouvement syndical, ça ne veut pas dire nécessairement faiblesse des luttes dans le monde du travail. Il y a toute une série de luttes, souvent des luttes localisées dans un certain nombre d'entreprises qui ont cours actuellement, mais qu'on connaît très peu, qui sont très peu médiatisées. Il y a des séries de débrayages dans des usines. Mais bon, ce qu'on saisit le plus directement, c'est plutôt la faiblesse du mouvement syndical. Et cette faiblesse, elle a été manifeste à deux moments. À l'inverse, il y avait ces deux grands mouvements, et notamment le mouvement contre le mariage homosexuel. Et à l'opposé, il y avait des difficultés des mouvements des syndicats à mobiliser. D'abord, contre l'accord national interprofessionnel. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme référence. C'est quoi cet accord national interprofessionnel? C'est un accord, donc, on dit accord national interprofessionnel, ANI, en fait. C'est signé, donc, par les confédérations, ça concerne l'ensemble des secteurs. Un accord national interprofessionnel dit sur la sécurisation de l'emploi, signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, donc l'organisation des cadres, le 11 janvier 2013, pardon. Et cet accord national interprofessionnel, il a été repris dans une loi, la loi sur l'emploi, qui a été promulguée le 14 mai 2013. Et puis, l'autre dossier sur lequel on attendait les syndicats où la mobilisation a été faible, c'est bien sûr la nouvelle réforme des retraites, qui a donc été menée et conduite là, à l'automne 2013. Deux réformes qui sont extrêmement importantes. Je pense que pour la réforme des retraites, c'est des choses qui sont claires pour chacun d'entre vous. Pour l'ANI, juste je vais rappeler, l'ANI, dans les différentes dispositions, il reprenait finalement ce que Nicolas Sarkozy avait essayé de mettre en avant lors de la fin de son mandat, les accords dits compétitivité-emploi, où il y a toute une série de dispositions finalement qui sont établies au travers de cet accord et de la loi. Un accord d'entreprise, en fait, peut aujourd'hui prévoir une baisse de salaire contre maintien de l'emploi, en fait. Par rapport à la menace de perdre des emplois, pour maintenir l'emploi, on peut négocier au niveau de l'entreprise une baisse générale des salaires, et un salarié qui refuse cela pourra être licencié pour motif économique. Le contrat de travail ne sert plus de protection, c'est cet accord collectif au niveau de l'entreprise qui prévaut. Il sera également possible de déroger par accord collectif aux procédures de licenciement collectif. Et puis, les délais de contestation des accords deviennent plus courts, ainsi que le délai de contestation du licenciement, en fait. Il y a d'autres dimensions, les prérogatives des comités d'entreprise sont réduites, etc. C'est vraiment, l'ANI, c'est un accord qui a accéléré une forme de déstructuration du droit du travail, qui a largement contribué à l'affaiblir, et donc c'est une attaque frontale contre les syndicats et contre le monde du travail. Pourtant, les syndicats, en tout cas ceux qui souhaitaient s'opposer à ces deux réformes, n'ont pas été en capacité de déclencher un mouvement interprofessionnel fort, même s'il y a eu des tentatives, même s'il y a eu la volonté de construire un mouvement de ce type, mais n'ont pas réussi à construire un mouvement comme celui de 2010 contre la réforme des retraites. Alors comment expliquer ça ? Je vais d'abord évoquer deux réponses immédiates, et puis j'essaierai ensuite de prendre un petit peu de recul et de réfléchir un petit peu à ce qui est en train de se passer au sein du mouvement syndical en France. Première réponse immédiate, et que j'imagine que vous avez, c'est celle que vous mettriez en avant si on devait discuter de cela, le mouvement syndical est divisé. Le mouvement syndical est divisé, contrairement à ce qui s'était passé en 2010. En 2010, au moment de la réforme des retraites, il existe à ce moment-là une intersyndicale qui rassemble l'ensemble des organisations syndicales françaises. L'ensemble des 8 organisations syndicales françaises, c'est une intersyndicale qui existe depuis 2008, qui a été constituée, c'est une plateforme de lutte contre la crise, et qui s'est maintenue en 2008, 2009, 2010, et qui a servi de point d'appui à la construction du mouvement en 2010. Alors c'est une plateforme qui réunit donc l'ensemble de ces organisations, qui est rendue possible par la brutalité des politiques qui sont menées à ce moment-là par sous la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est... Du coup, c'est le... Et je reviens du coup à l'évocation du départ, le rôle facteur gouvernement de droite, gouvernement de gauche, l'existence de ce gouvernement Fillon, la présidence Sarkozy, crée les conditions d'une unité syndicale. Ça a volé en éclats avec le retour de la gauche au pouvoir, sachant qu'aujourd'hui, le discours... Alors, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui sont favorables... qui ont été favorables à l'accord national interprofessionnel et à la réforme des retraites, en particulier la CFDT, et que le discours de la CFDT occupe une place médiatique extrêmement importante. En occupant cette place médiatique, impose une certaine lecture des choses. Il n'est pas possible de faire d'autres types de réformes, tout en ayant une proximité forte avec le gouvernement actuel. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur les questions des liens syndicat-parti et construction d'autonomie syndicale. Mais là, on est retrouvé dans une phase où, de nouveau, un syndicat a une proximité extrêmement forte avec le parti au gouvernement, avec le PS. Et d'ailleurs, ça se voit dans le reclassement des cadres de la CFDT, reclassement d'un certain nombre de dirigeants de la CFDT, qui sont aujourd'hui soit entrés au gouvernement, soit ont eu des postes de responsabilité éminente, symbolique. Il y a eu comme ça un jeu de reclassement avec l'arrivée du PS au pouvoir. Donc, la CFDT a approuvé les réformes, a d'ailleurs, non seulement c'est un discours médiatique, mais c'est aussi un discours dans les entreprises. La CFDT a fait des tracts pour défendre l'ANI, a fait des tracts pour défendre la réforme des retraites, les a largement diffusés. Et donc, cette division syndicale contribue à affaiblir le discours syndical. La deuxième réponse immédiate, c'est les effets de la réforme de la représentativité sur le champ syndical. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Cette position dominante qu'occupe aujourd'hui la CFDT, qui est rendue possible pour plusieurs raisons, elle est rendue possible aussi par la crise interne qu'a connue la CGT, le moment de succession. Vous savez que Bernard Thibault est arrivé au bout de ses mandats à la CGT, a cédé sa place, et le fait de trouver un successeur ou une successeur, je ne sais pas comment dire, une successeur heureux à Bernard Thibault, puisque c'était envisagé à un moment donné, a suscité une crise interne extrêmement forte, en fait. Donc, la place qu'occupe la CFDT aujourd'hui, elle est liée à son positionnement par rapport au gouvernement, sa défense des réformes en cours, elle est liée aussi à l'affaiblissement de la CGT, mais elle est liée aussi à quelque chose de plus structurel, qui est ce qui se joue au travers du système de représentativité. Alors c'est un tout petit peu technique, mais je vais m'arrêter un instant parce que c'est extrêmement important pour comprendre les logiques internes du champ syndical, en fait. Alors, en effet, il y a eu une grosse réforme du système de représentativité. C'est quoi le système de représentativité ? C'est la qualité juridique qui vous donne le droit d'agir au nom des travailleurs, qui vous donne le droit de désigner un délégué syndical, qui vous donne le droit de négocier un accord et de le signer, et que cet accord soit valable ensuite. Auparavant, avant, on avait un système en France, c'était l'État, hein, qui décidait en dernière instance de quelles organisations étaient représentatives au niveau national et interprofessionnel. Par décret, hein, le gouvernement fixait la liste des organisations représentatives. Et ces organisations, elles bénéficiaient, alors le terme est juridique, technique, mais il est intéressant, d'une présomption irréfragable de représentativité. Donc il y avait 5 organisations qui bénéficiaient de ça, hein, Club des 5, comme certains disent, hein, la CGT, la CFDT, Force Ouvrière, la CFTC et la CFE-CGC. Et pour ces organisations, il était possible de nommer un délai, de créer une section syndicale dans n'importe quelle entreprise, hein, plus de 11 salariés, de nommer un délégué syndical, de créer une section syndicale et de signer un accord, même seul. Et cet accord était valable, non pas pour ceux qui sont syndiqués, mais pour l'ensemble des salariés. Hein? Ce système, il a complètement été remis en cause en 2008, hein, par la réforme de la représentativité. Et aujourd'hui, la représentativité, elle est ascendante. Elle n'est plus descendante, elle est ascendante. C'est-à-dire qu'on additionne les résultats aux élections professionnelles dans les entreprises. Quand vous votez pour les délégués du personnel et pour les comités d'entreprise, on les additionne au niveau des secteurs d'activité, des branches, et puis au niveau national et interprofessionnel. Il faut faire 10% des voix, des suffrages exprimés pour être représentatif dans une entreprise, pour pouvoir nommer un délégué syndical. Il faut faire 8% au niveau d'une branche et 8% au niveau national et interprofessionnel. Et puis, au bout d'un cycle de représentativité, on additionne tous les résultats dans toutes les entreprises et on établit la liste de ceux qui peuvent finalement signer un accord au niveau national et interprofessionnel, un accord comme la réforme des retraites par exemple, ou comme l'ANI, je vais y venir. Ça a été le cas, on est arrivé au bout du premier cycle en 2013. Effectivement, en mars 2013, le ministère du Travail a pris en compte donc l'ensemble des élections qui s'étaient déroulées entre le début d'application de la loi, entre 2009 et entre 1er janvier 2009 et 31 décembre 2012. Hein. Donc la mesure d'audience, elle a été établie en additionnant, en agrégeant les résultats des élections professionnelles dans les comités d'entreprise de l'ensemble des entreprises de plus de 11 salariés. Il y avait eu un scrutin spécifique pour les très petites entreprises, hein. Un scrutin sur sigle. On a demandé aux salariés des très petites entreprises d'aller voter en dehors de leur entreprise pour des sigles syndicaux. Ça leur donnait aucun droit, aucune représentation, mais on leur a demandé d'aller voter. Donc on a mis en place ce nouveau scrutin, c'était une première, entre novembre et 12 décembre 2012. La participation a évidemment été très faible. Et puis on a additionné aussi les élections aux chambres départementales d'agriculture. Donc ça fait un nombre d'inscrits, 12 millions de salariés, mais il y a eu en fait 4 456 000 votants. Donc un taux de participation qui est autour de... qui est à 42,8%. Je pense qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. C'est l'inverse. Et voilà les résultats donc de cette première mesure d'audience de la représentativité. J'y reviendrai tout à l'heure, ça vous intéresse dans la discussion. Hein. Donc c'est l'agrégation de tous ces résultats. Donc ça donne, vous voyez, 26,8% pour la CGT, 26% pour la CFDT. Vous voyez là, la différence est très très réduite. Hein, parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'espace qu'occupe aujourd'hui la CFDT. Force ouvrière 15,9%, la CGC 9,4%. La CFTC 9,3. Et en fait, après, le ministère a calculé le poids relatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, il y a d'autres organisations syndicales, il y a l'UNSA, Solidaire, mais ces organisations n'ont pas franchi la barre des 8% au niveau national et interprofessionnel. Donc on a recalculé les résultats en enlevant ceux qui ne sont pas représentatifs pour faire le poids relatif de ceux qui vont compter dans le jeu quelque part. Et donc, grâce à ce poids relatif, vous voyez que si on additionne la CFDT, la CGC et la CFTC, on dépasse de justesse, on dépasse les 50%. Et ça a permis de dire l'accord national interprofessionnel que certains syndicats ont contesté, la CGT en tête, mais aussi Solidaire, la FSU. Regardez, il est légitime l'accord, puisqu'il a été ratifié par des organisations qui font en poids relatif plus de 50%. Et le problème, c'est que la CGT avait construit tout son argumentaire en disant que cet accord n'est pas légitime parce qu'il n'a été signé que par trois organisations, la CFDT, la CFTC, la CFECGC, qui ne pèsent que 38,7% aux dernières élections prud'homales, donc il n'est pas majoritaire. Or, quelques mois plus tard, le ministère publie les résultats et ça tombe mal, il est majoritaire. Et donc il y a eu beaucoup d'interrogations sur ces résultats. Notamment sur les résultats de la CFTC, 9,3%, dans la mesure où toutes les enquêtes de terrain montrent au contraire que la CFTC perd des délégués, perd la représentativité dans des entreprises. Et donc il y a eu beaucoup d'interrogations, il n'en reste pas moins que ces résultats ont été publiés et qu'aujourd'hui, ces trois syndicats, il y a quelque part un bloc syndicat qui s'inscrivent clairement dans une option réformiste, qu'ils revendiquent comme telle, parfois même dans une option d'accompagnement plutôt des mesures libérales, qui peut signer jusqu'à la prochaine mesure de représentativité, jusqu'en 2017, des accords qui seront donc valables, validés en fait. Donc il y a une position dominante là, qui est aussi sanctionnée par le droit, si vous voulez, hein, sanctionnée par la mesure de représentativité. Donc on a là une situation assez défavorable pour ce qu'on pourrait qualifier, pour les composantes du mouvement syndical qui entendent se qualifier, même si elles ne reprennent pas forcément le terme, comme un syndicalisme de lutte, hein, en tout cas d'opposition aux réformes d'inspiration libérale. Situation assez défavorable qui se traduit donc dans les difficultés pour enclencher un mouvement interprofessionnel, dans la relative autonomie des conflits locaux qu'on n'arrive pas à fédérer, et par un certain découragement militant, hein, qui est présent. Ça se traduit dans les débats, dans les discussions, notamment au niveau militant, par un retour en force de questions qui sont toujours présents, mais qui sont ravivés là, sur finalement qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mouvement syndical ? Est-ce qu'il n'est pas complètement institutionnalisé ? Est-ce qu'il n'est pas complètement bureaucratisé ? Est-ce qu'on n'a pas un effet, une coupure entre la base hein, qui reste mobilisée, militante, et le sommet ? Et, par exemple, ça expliquerait la présence de ces salariés dans les manifestations à Quimper, par exemple. Hein. Alors, ce sont des pistes d'analyse qui sont intéressantes, hein, qui sont toujours, qui a toujours des éléments pertinents, mais qui peuvent devenir des explications un peu rapides, un peu passe-partout, notamment la coupure base-sommet. Hein. Parce que cette tension à l'institutionnalisation, elle est présente aussi bien à la base qu'au sommet. Il n'y a pas juste le sommet des organisations qui serait institutionnalisé. En fait, l'activité syndicale en tant que telle, hein, elle est dans une tension permanente entre des pratiques de mouvement social. On organise, on essaye de représenter les salariés, de créer de la solidarité, un intérêt collectif, de mobiliser, et puis des pratiques de négociation hein, qui se déroulent dans les arènes institutionnalisées de la négociation. Donc c'est au cœur même de l'action syndicale. Et la dynamique d'institutionnalisation, elle est aussi présente à la base, en fait. Alors, donc comment prendre un petit peu de recul et comment essayer de comprendre hein, pourquoi on en est là, quelles sont les grandes tendances qui travaillent de l'intérieur le mouvement syndical hein, et qui contribuent à maintenir donc des options très modérées en dépit des fortes contestations sociales hein, et de la multiplication des plans de licenciement collectif qui existent à l'heure actuelle en fait. Et je voudrais donc dans cette dernière partie de l'intervention insister sur un processus un peu dialectique qui me semble traverser le mouvement syndical. Il semble qu'il y a des éléments qui relèvent un peu du travail du négatif, hein, qui nourrissent effectivement une tendance à l'institutionnalisation, et des éléments qui relèvent plus d'un travail du positif, hein, donc c'est contradictoire, hein, et qui font advenir quand même, hein, ce mouvement il n'est pas figé, des pratiques nouvelles, hein, des éléments potentiels de renouveau. Alors, travail du négatif, hein, ce qui nourrit la tendance à l'institutionnalisation. Ben là aussi, je voudrais vous inviter à réfléchir un petit peu à un paradoxe du syndicalisme français. Vous le savez, on a un mouvement syndical qui est faible en nombre d'adhérents. On répète tout le temps, entre 8 à 9% de syndiqués parmi la population active. 8 à 9% c'est une moyenne, ça masque d'énormes différences. Ça masque des déserts syndicaux dans le privé, notamment dans le secteur privé ou du côté plutôt des petites et moyennes entreprises. On sait que le syndicalisme français, il est présent surtout dans les grandes entreprises, hein, du public et du privé. L'effet taille est ici complètement décisif, en fait. Hein. Donc un syndicalisme faible en adhérence, ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui est particulièrement accru, et en même temps une capacité à être présent dans les grandes mobilisations sociales, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, voire à construire celle-ci. Je les ai évoqués un petit peu tout à l'heure en introduction, mais si vous regardez le rôle des syndicats en France, ben, si je prends depuis 1995, on a 4 grands mouvements sociaux interprofessionnels, 1995, 2003, 2006, 2010, qui sont animés, pas seulement, mais animés par, il n'y avait pas que les syndicats, mais qui sont largement animés par les organisations syndicales. Donc on n'est pas dans la situation en France où les syndicats ne seraient pas présents sur le terrain de la contestation. On n'est pas dans la situation qu'on aurait pu évoquer un petit peu sur le cas de l'Espagne, dans la, quand on a, par rapport à la conférence que nous a présentée Montserrat Emperador, où lors du mouvement des indignés, il y a eu une mise en cause très forte des syndicats comme faisant partie des institutions, faisant partie de ce qui est rejeté en fait, comme les partis. C'est pas le cas en France, parce que les syndicats sont présents sur le terrain des luttes sociales, notamment parce qu'à partir de 1995, s'est dégagé un arc de force avec plusieurs organisations qui incarnent un peu ce syndicalisme contestataire, à la fois la CGT, la FSU, Solidaire, la CNT aussi dans certains endroits, Force Ouvrière aussi, dans un certain nombre de manifestations. Quelque part, c'est ce qui était attendu par certains d'ailleurs après 1995, un pôle regroupant le syndicalisme de lutte, même si ce pôle, il n'a jamais existé de fait, il est au contraire rejeté par certaines composantes de ce syndicalisme de lutte, à commencer donc par la CGT, je vais m'expliquer ce que je veux dire par là en fait. Donc, un mouvement présent dans la contestation, qui l'anime, on l'avait très bien vu en 2010, en 2010 on a une série de manifestations entre septembre et la fin novembre 2010, qui vont réunir à plusieurs reprises plus de 3 millions de personnes. Et pas toujours les mêmes. Tous ceux qui ont été dans les cortèges syndicaux savent que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Donc il y a eu une capacité de mobilisation extrêmement forte, qui était surtout une capacité liée aux manifestations, pas tant aux grèves, parce qu'il y a eu beaucoup plus de difficultés à déclencher des grèves. Et en même temps, dans ce mouvement de 2010, lorsque le mouvement était au plus fort, il y a eu une certaine crainte de la part de certains nombre d'organisations syndicales, dont la CGT, qui est la plus importante de ces organisations en termes numériques, certaines craintes de se retrouver en position d'incarner finalement la seule opposition face au gouvernement Fillon et à Nicolas Sarkozy, en fait. Et ça, ça a contribué à être un frein dans le mouvement par rapport à la capacité de mobilisation. Et c'est là-dessus que je voudrais insister comme un des facteurs de fond qui travaille aujourd'hui le mouvement syndical. Il me semble que c'est un facteur déterminant pour comprendre la période et comprendre la faiblesse aujourd'hui de la dynamique syndicale. Alors, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux évoquer ? Je veux évoquer le fait que, vous le savez, il y avait un lien fort entre la CGT et le Parti communiste français, un lien historique tout au long de l'histoire de la CGT, et en particulier à partir de la, donc, à partir de 21-22, de la création du Parti communiste, la cassure au sein du mouvement ouvrier entre socialistes et communistes. Il y a un tabou des relations parti-syndicat en France, on ne les affiche pas. Il y a la charte d'Amiens qui énonce au contraire l'autonomie, l'indépendance du mouvement syndical. Il n'est pas apolitique, mais il se doit d'être partisan. En même temps, toute l'histoire du mouvement syndical est une histoire de construction de relations avec les partis. Et la direction de la CGT, plus largement que la direction d'ailleurs, a entamé une prise de distance avec le Parti communiste français à partir du début des années 90. À partir de 1993, la direction de la CGT cesse de donner des consignes de vote aux élections. On ne va plus dire pour qui il faut voter. Et c'était de voter, de prendre, en fait, d'installer beaucoup plus d'autonomie par rapport à la sphère partisane. Mais quelque part, ça s'est traduit, c'est là où il y a une équivoque, par un rejet du politique, en fait. Non pas du partisan, mais du politique, en fait. Alors, quand je dis ça, c'est pas aussi tranché que ça. La campagne, la dernière campagne présidentielle, notamment la campagne menée par le Front de Gauche, a ravivé au sein de la CGT l'envie chez un certain nombre de militants de renouer des relations plus étroites entre le Front de Gauche et la CGT. Mais au-delà de cette campagne, pour une large partie des membres de la direction de la CGT, au niveau confédéral, au niveau des fédérations, au niveau des unions départementales, donc c'est tout l'appareil de la CGT, hein, c'est pas juste le sommet en fait, hein. Il y a une acceptation progressive, hein, au cours de ces années, 90-2000 jusqu'à aujourd'hui, que le domaine d'intervention syndicale est un domaine borné. Un domaine limité, si vous voulez. Pour dire autrement, c'est aussi la volonté, quelque part, de normaliser, le terme est peut-être un peu fort, mais normaliser la présence de la CGT dans le système de relations professionnelles. On est une organisation commune autre, on était marqué comme relevant de l'univers communiste. Aujourd'hui, on est une organisation commune autre, et notre domaine d'action, c'est celui limité des relations professionnelles, en fait. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication ? On peut chercher du côté de la réflexion, un peu la façon de théoriser ce qu'est le mouvement syndical, en fait. J'évoquais tout à l'heure la charte d'Amiens. La charte d'Amiens, elle énonçait, en 1906, hein, que finalement le mouvement syndical, il avait devant lui une double besogne. Donc, quelque part, un double horizon d'action. La lutte au quotidien, la lutte économique, hein, pour la défense des conditions de travail, les salaires, la lutte au jour le jour, et puis la lutte politique, pour porter un projet d'émancipation sociale, un projet de transformation de la société. Et que c'était l'articulation de ces deux, de la lutte économique et de la lutte politique, qui donnait du sens au mouvement syndical. On retrouve cette même idée, on retrouvait avant la charte d'Amiens cette même idée dans les statuts de l'Association internationale des travailleurs, la fondation de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, dans les statuts rédigés l'influence de Marx, en fait, qui, quand il réfléchissait aux syndicats, disait aussi, attention, il y a un risque de s'enfermer dans les empiètements quotidiens du capital, les empiètements quotidiens, s'enfermer dans la lutte qu'on mène au quotidien contre le chauffage qui n'est pas présent dans tel bureau ou par rapport à telle ou telle condition de travail, c'est prenant, ça prend tout le temps, et si on n'a pas justement de projet politique, il y a un risque d'enfermement dans cette seule lutte économique. Pendant longtemps, la CGT n'a pas été confrontée à ça, puisque même si elle concevait des limites à son action, c'était pour projeter vers le parti. La lutte, l'action syndicale menée par les militants de la CGT, s'inscrivait dans l'idée de aussi favoriser l'arrivée au pouvoir du parti dont on était proche, avec donc une certaine conception de la subordination par rapport à l'orientation politique donnée par le parti. C'était très très fort ça, dans les années 70, avec le programme commun de gouvernement qui avait été conclu entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les radicaux. On va développer les luttes pour essayer de favoriser la victoire électorale de l'alliance de gauche. Et donc ça a été complètement remis en cause par la distanciation des liens PC-CGT, mais ça ne s'est pas traduit nécessairement par une sortie de la subordination, si vous voulez. Ça ne s'est pas traduit nécessairement par le fait de penser autrement l'autonomie syndicale. Ça s'est traduit par l'idée que le syndicalisme est un acteur du système des relations professionnelles, qu'il est un des rouages de la démocratie sociale, et que son domaine d'action s'arrête là, sinon il n'est plus légitime. Et d'ailleurs, dans les débats en 2010, au sein de la CGT, c'était « Ah mais non, mais si on devient l'opposition principale contre Sarkozy, on sera plus légitime, c'est pas notre rôle. C'est le rôle des partis, on va pas se substituer à eux, en fait. Ce n'est plus légitime. » Il y avait eu le débat aussi au moment du traité constitutionnel européen. En 2005, est-ce qu'il fallait que la CGT prenne parti sur ce traité constitutionnel européen ? La direction de la CGT à l'époque, elle disait non, c'est un référendum politique, ça ne nous concerne pas, nous en tant que syndicat. Et en fait, la direction avait été mise en minorité dans le parlement de l'organisation, des responsables de fédérations et d'unions départementales qui avaient dit mais ça nous concerne parce que les directives européennes s'appliquent directement dans ce qu'on vit tous les jours au travail. Et deux, donc on va prendre position et en plus on va dire non, en fait. Vous voyez ce débat sur les frontières du politique, en fait. Et avec cette tendance, et qui marque notamment toute une génération au sein de la CGT, qu'on pourrait qualifier un petit peu comme la génération qui a accédé au pouvoir sous les mandats de Bernard Thibault, tend à penser que, voilà, l'horizon, voilà, on a fait le travail nécessaire pour se distancier du politique et maintenant il faut bien rester uniquement dans le domaine des relations professionnelles. Je crois qu'on on ne comprend pas pourquoi la CGT a ratifié la réforme de la représentativité dont j'ai parlé tout à l'heure si on ne prend pas en compte cela en fait. Hein ? C'est donc être un des rouages de la démocratie économique et sociale, plutôt être un des rouages de la démocratie sociale, mais ne plus donner les moyens de penser autrement ce que pourrait être cette démocratie sociale. Accepter finalement l'ordre tel qu'il est, on est un des rouages, on essaye de faire fonctionner au mieux le système de relations professionnelles. Mais par contre, il n'y a plus l'idée de portée, en tout cas, je vais revenir parce que c'est pas aussi, homogène que ça, il n'y a plus l'idée de porter une autre conception de la démocratie économique et sociale. C'est plutôt donc l'idée, le système des relations professionnelles, il a besoin d'acteurs reconnus, d'acteurs légitimes, légitimés par suffrage, par le vote des salariés dans les entreprises. Donc on se calque sur les mécanismes de la démocratie électorale, représentative, et ça va permettre finalement d'agir comme au sein des relations professionnelles et de se limiter à ça. Alors le problème de cette conception, c'est qu'elle entre quelque part en écho, en phase, avec ce qui est pensé aussi du côté patronal, en fait. Il faudrait faire toute une conférence là-dessus, je vais le dire très rapidement, mais ça entre de manière indirecte, en résonance avec la stratégie patronale, de concentrer les négociations au niveau de l'entreprise. Il y a une évolution du droit du travail, du droit de la négociation, qui fait que depuis les années 90, la tendance est à essayer de limiter au maximum l'intervention législative, ça c'est sûr, mais aussi à limiter au maximum ce qui se joue au niveau des secteurs d'activité, des branches, pour tout concentrer au niveau de l'entreprise. C'est là où la décision doit être prise. L'ANI va dans ce sens-là. On va négocier des accords pour le maintien de l'emploi, et voilà, on va demander aux salariés, grâce à des acteurs syndicaux légitimés par les élections. Si ce n'est que le niveau de l'entreprise, c'est le niveau où les syndicats sont le plus faibles. Et puis, c'est des faux choix, si on vous dit, vous préférez quoi en fait ? Maintenir votre emploi ou baisser votre salaire en fait ? Une fausse alternative en fait. C'est ce type d'accord qui est négocié. Donc il y a une tendance à l'isolement des équipes syndicales dans les entreprises. Difficulté à sortir l'entreprise, parce qu'en plus la négociation s'est beaucoup développée. On ne cesse de négocier en France. Des fois, vous entendez peut-être dans des émissions de télé, on va vous dire « le problème en France, c'est que la négociation collective n'est pas développée ». Ça, c'est pas vrai du tout. Elle est très développée. On ne cesse de négocier dans les entreprises, sur toute une série de thèmes. Simplement, il n'y a pas d'obligation d'aboutir à des résultats. Donc, les représentants syndicaux, ils sont sans cesse en réunion, sans cesse en négociation, uniquement dans l'enceinte de l'entreprise. Ils ont du coup beaucoup de mal à sortir de l'entreprise, à produire des solidarités avec d'autres équipes militantes, et ils se retrouvent enfermé là-dedans tout en ayant un discours interne de légitimation de ce système de relations professionnelles. Alors, ça c'est à mon sens la première grande tendance qui travaille le mouvement syndical du côté des composantes qui pourraient occuper cet espace de la contestation. En fait. Peut-être une autre tendance forte, je vais aller plus vite pour pas prendre de temps par rapport à la discussion, c'est les difficultés aussi que rencontrent d'autres composantes de cet arc plus contestataire. Il y avait toute une série d'organisations qui étaient un peu en pointe pendant le mouvement de 95, parce qu'elles s'étaient créées juste avant le mouvement social de 95, ou parce que ça leur a permis de trouver une autre ampleur. Je pense bien sûr à la FSU, par exemple, ou au syndicat Sud, réuni après au sein de Solidaire. Le mouvement de 95, c'était un moment de recomposition syndicale, qui avait donné un peu une impulsion à ces recompositions. Et d'ailleurs, certaines organisations s'étaient un peu pensées comme provisoires, dans l'attente d'une recomposition plus large, essayer de reconfigurer un mouvement syndical avec une option claire de contestation des politiques néolibérales. Alors, c'est pas tout à fait le cas. Ces organisations se sont installées dans la durée. Et ces organisations, elles existent aujourd'hui pour elles-mêmes. Il s'agit pas, pour moi, de dire si c'est bien ou mal, bien sûr, simplement de constater que ces organisations existent donc pour elles-mêmes et que du coup, un des enjeux internes, c'est la consolidation de l'organisation. C'est moins de recomposer un syndicalisme de lutte, même si ça reste présent, mais plutôt, on est lancé dans la construction de son organisation. Évidemment, plus on s'y implique, plus ça prend de sens, avec en même temps des difficultés à faire grossir ces organisations. hein, parce qu'il y a toute une série de critiques qui sont adressées à la CGT pendant les grands mouvements, notamment par exemple en 2006, en 2010, ah, pourquoi s'ils convoquent des journées nationales, des journées d'action, hein, vous savez, les journées d'action de saute-mouton, hein, pourquoi on manifeste de semaine en semaine et que finalement on n'appelle jamais une grève reconductible, hein. Mais en même temps, il n'y a pas d'autres organisations aujourd'hui en capacité de dire bah, ça suffit, hein, comme type de mot d'ordre, et on va appeler un autre mot d'ordre. D'autres organisations qui appellent à des grèves reconductibles ne sont pas assez fortes aujourd'hui, assez crédibles pour réussir à enclencher ces grèves reconductibles. Du coup, ces organisations sont confrontées à la nécessité de se construire, de se développer. Et cette nécessité absorbe les énergies militantes, en fait. Prendre un exemple, peut-être qu'il y a des militants de Solidaires dans la salle, mais par exemple, au sein de Solidaires, ah ben j'en vois un, j'en vois. Au sein de Solidaires, enfin, je prends un exemple, vous savez, si on prend l'exemple de Sud PTT, hein, qui a été une des premières des premiers Sud à se constituer. Les militants de Sud PTT, ils étaient très connus pour être très proches des luttes, les luttes altermondialistes, les sans-papiers. Alors c'est toujours le cas, mais un petit peu moins fort en fait. Hein, aujourd'hui, on fait des enquêtes un petit peu sur le multi-positionnement, l'appartenance à l'engagement dans plusieurs organisations, les luttes qui sont menées, ben, on se rend compte que ces militants, ils sont de plus en plus accaparés par ce qui se passe dans l'entreprise, hein. Bon, parce qu'il se passe des choses pas très sympathiques du côté de France Télécom en particulier, mais de la Poste aussi, mais aussi parce que l'organisation, elle a atteint un seuil critique, elle est devenue importante, hein. Pas assez importante encore pour avoir suffisamment de moyens, dégager des forces pour pouvoir investir. Du coup, la dimension interprofessionnelle, comme il le souhaiterait, mais suffisamment forte pour compter. Et du coup, ben voilà, il y a aussi cette tendance qui est liée à d'autres phénomènes d'enfermement un petit peu dans l'entreprise, en fait. Et puis peut-être troisième élément qui travaille un peu en négatif le mouvement syndical, c'est la difficulté à reformuler un projet de transformation radicale des rapports sociaux, un projet d'émancipation sociale. Le plus souvent, le mouvement syndical, là, dans ses différentes composantes, se retrouve sur une posture plutôt défensive, en fait. Hein? On va réagir, hein, par rapport à un projet de loi, par rapport à une réforme. Et du coup, on va se retrouver complètement dépendant de l'agenda gouvernemental, hein, ou de celui du MEDEF, hein, qui va fixer les thèmes de négociation. Et ça pèse beaucoup sur la construction de la contestation, parce que on essaye de construire, et puis c'est déjà trop tard, parce que la loi a été discutée, votée à l'Assemblée nationale. Et du coup, et là, il y a peut-être une difficulté à penser l'après. Hein. Vous savez, pendant le mouvement de 2010 contre la réforme des retraites, il y avait dit on va continuer, on va essayer d'occuper le terrain après. Ça n'a pas tellement été le cas. Hein, contrairement à ce qu'ont essayé de faire les mouvements de droite, là, en fait. Hein, des difficultés à affirmer une autonomie syndicale aussi dans le choix des thèmes de revendication et la façon de les imposer dans l'espace public. Alors, je voulais dire deux mots du travail du positif quand même, des dynamiques de changement, je vais juste les évoquer parce que je vois que je déborde en fait, hein. Mais en même temps, je ne vais pas rester juste sur du négatif parce que ça ne serait pas très, peut-être pas très optimiste en fait. Hein. Il me semble quand même, hein, que c'est un mouvement contradictoire, hein. Que le mouvement syndical, il y a des processus qu'il travaille en profondeur, hein, qui renforcent donc cette institutionnalisation, mais il y a aussi des processus qui conduisent à des formes de renouvellement, en fait. Bon, d'abord, là, j'ai parlé de façon très globale des organisations syndicales, elles sont loin d'être homogènes. Je dis la CGT, mais la CGT, on devrait dire les CGT, hein. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il y a vous savez, quand aussi on se demande est-ce que la CGT, elle est en train de suivre le recentrage qu'avait connu la CFDT, on ne peut pas répondre à cette question. Il y a des éléments de la direction, oui, qui vont dans ce sens-là, mais il y a plein d'autres. C'est absolument pas fait. Enfin, il y a plein de positions au sein des fédérations, au sein des unions départementales, des syndicats d'entreprise. Il y a une diversité interne. Et puis, des formes de résistance en interne, hein, c'est pas du tout une organisation qui marche aussi en ordre très hiérarchisé. Non, il y a le fédéralisme est un principe qui existe dans les différentes composantes du mouvement syndical français et qui fonctionne véritablement, en fait. Hein. Donc, c'est un mouvement plus compliqué que ça. Il me semble que dans les points de renouveau, donc ne pas généraliser, ne pas trop homogénéiser par rapport aux organisations syndicales, les pistes de renouveau. Il me semble qu'il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord ce qui se joue, je vais juste les énoncer, puis j'y reviendrai dans la discussion si vous voulez. Ce qui se joue dans les luttes qui sont menées pour la syndicalisation, l'organisation des salariés précaires. Ça, c'est toute une série d'expériences, de luttes qui sont menées par différentes organisations syndicales et qui contribuent à renouveler les pratiques, à renouveler les façons de dire les enjeux syndicaux. Pour rappel, aujourd'hui en France, les cadres sont proportionnellement plus syndiqués que les ouvriers. Je ne dis pas numériquement, je dis proportionnellement. Pourquoi ? Parce que les ouvriers, mais aussi les employés, sont les premiers qui ont subi les politiques d'externalisation de la main-d'œuvre. Au lieu d'être dans des entreprises, plusieurs milliers de salariés se retrouvent dans des entreprises de service aux entreprises, des entreprises sous-traitantes, au deuxième, troisième, quatrième rang de sous-traitants, ce sont souvent des PME. Et c'est très difficile de syndiquer dans une petite entreprise. Ça l'est beaucoup moins dans une grande entreprise. Donc ça se traduit aujourd'hui, parce que ce n'est pas des politiques qui sont nouvelles, par le fait que les cadres sont plus syndiqués que les ouvriers. D'ailleurs, si je reviens juste un instant sur les votants, là, pour les suffrages exprimés, pour les pris en compte par la mesure d'audience de la représentativité, 52% des suffrages exprimés sont ceux de cadres. Il y a une surreprésentation des cadres dans le corps électoral qui a été pris en compte, en fait. Il n'y a pas 52% de cadres en France. Enfin, on le saurait, mais c'est vous dire. Mais pourquoi les cadres ne votent pas plus que les ouvriers et employés, ça, c'est, on n'a jamais eu d'études qui montraient que les cadres votaient plus. Mais c'est simplement parce que les entreprises qui ont été prises en compte là sont des entreprises où il y a des institutions représentatives du personnel, où le vote a été organisé, etc. Et les ouvriers et les employés se retrouvent dans des entreprises où ce n'est pas organisé, en fait. Celles qui ne sont pas prises en compte. Donc, d'où l'enjeu qui est extrêmement, qui est très important pour le mouvement syndical, c'est un enjeu décisif. C'est la capacité à organiser les fractions les plus exploitées du salariat. C'est la capacité à renouveler les équipes militantes, à faire en sorte qu'il y ait une continuité aussi. Le mouvement syndical, aujourd'hui, en France, c'est un mouvement vieillissant. Toutes les organisations, même les plus récentes, c'est un mouvement vieillissant. Parce qu'il y a toute la génération dite du baby boom qui part à la retraite, là. Il y a des fédérations professionnelles où aujourd'hui il y a plus de retraités que d'actifs. C'est le cas dans d'autres syndicalistes, notamment en Italie. Donc il y a un véritable enjeu à organiser les salariés précaires. Il y a des expériences qui sont menées. On a été un certain nombre à travailler là-dessus. Lilian Mathieu, qui ici aussi a travaillé sur ce type de lutte. Et il ne faut pas exagérer leur fréquence. Mais oui, il y a quand même toute une série des tentatives pour structurer les syndicats autrement, pour essayer de mettre en place des syndicats de site, des coordinations de précaires, pour essayer d'aller voir ces salariés qui ne sont pas organisés. Et ça fait bouger les organisations syndicales. Donc j'y reviendrai dans la discussion si vous voulez, pour essayer d'expliquer en quoi. Et puis il me semble qu'il y a d'autres pistes de renouveau, notamment, j'en évoquerai juste deux pour finir, pour conclure, ce qui se joue dans les luttes où les organisations syndicales essayent de créer des liens avec les usagers notamment. Les tentatives pour parler au-delà des seuls enjeux internes de l'entreprise, pour essayer de nouer des alliances là durables, des alliances objectives par rapport à un certain nombre d'enjeux. Prenez l'exemple de la votation citoyenne à la poste. Qu'est-ce que c'est qu'un service public postal et pourquoi on le défend? Essayer de porter ça au-delà de l'entreprise. Et puis comme piste de renouveau aussi, il y a tout ce qui se joue au travers de la connaissance du travail. Toute la réflexion sur comment c'est transformé le travail. Alors, c'est parfois au travers de cette thématique très très à la mode des risques psychosociaux, qui a été aussi récupérée en partie par les employeurs, par le patronat. Mais au-delà même de cette récupération, on négocie beaucoup sur les risques psychosociaux, au-delà de cette récupération, il y a quelque chose de très positif qui est le fait que ça conduit les syndicalistes à reparler du travail, à échanger sur le travail, à être plus proche des salariés, à savoir ce qui s'y passe en fait. Et ça, c'est une façon de renouer en termes de pratiques militantes et de renouer avec ceux que l'on représente et de ressourcer quelque part le mouvement syndical. Donc voilà pour ces pistes de renouveau qui travaillent aussi le mouvement syndical, même si ce n'est pas toujours visible, mais que ça conduit à un certain nombre de transformations. Je vais peut-être arrêter là parce que j'ai déjà dépassé mon temps et je reviendrai sur d'autres éléments que j'avais prévu de dire si vous voulez dans la discussion si cela s'y prête. Hein.